Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour à tout le monde, bienvenue pour la 42e émission et dernière émission de l'année 2016 de Par le bout de la lorgnette. Alors c'est une émission aujourd'hui spéciale cadeau de Noël, à 9 jours de la date fatidique. Si vous êtes comme Valérie à la bourre et que vous n'avez encore rien acheté, si vous êtes comme Pauline à penser que Noël a lieu dans un mois, pas de souci, on va vous donner des idées de livres à mettre au pied du sapin. Bonjour Valérie.
Salut.
Ça va bien Valérie?
Ça va super bien.
Bon, bah écoute, tant mieux. T'as une voix un peu rock aujourd'hui.
Si j'avais prévu de dire bonjour les hommes, comme tu me l'avais conseillé.
Voilà, mais tu ne le fais pas. Parce que tu es une petite rebelle.
C'est ça.
Et oui, c'est pour ça qu'on t'aime bien d'ailleurs.
D'accord.
Salut Pauline.
Salut tout le monde.
Comment ça va Pauline?
Très bien.
Hein? Alors, ouais. Il faut préciser à nos auditeurs autour de la table, ben, on fait une émission à Noël, donc on mange des victuailles de Noël.
Mmh.
Avec du saumon, des huîtres, avec de,
un
de l'eau pétillante.
Un breuvage pétillant.
Voilà.
De la
Kézac, tout ça. Salut Héloïse.
Salut tout le monde.
Tout vient de demande, c'est cool.
Et bien sûr, mais on consomme local, hein,
ouais.
Évidemment. Alors, des livres de Noël, des idées pour mettre des livres au pied du sapin, c'est important qu'il y en ait. Et en plus, on va voir durant cette émission, il y en a pour tous les âges.
Et c'est Béatrix Potter qui disait que serait un Noël sans livres.
Exactement.
Je suis d'accord.
Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, on va vous donner des idées de livres originaux, de beaux livres.
Pour tous les âges.
Pour tous les âges. J'ai deux livres. Héloïse, tu en as combien?
J'en ai deux aussi.
Tu en as deux. Valérie, tu en as combien?
Deux.
Deux. Tu as combien de fiches?
Zéro.
Eh oui, parce que tu les as oubliées. Pauline, tu as combien de livres?
Bah, deux.
Oh, on a tous bien travaillé.
Elles sont pas loin, elles sont dans mon photocopieur.
Bah ouais, mais
je vais aller les chercher.
Non, tu n'as pas le temps. Qui veut commencer?
Eh ben, plouf plouf, Pauline.
Allez, Pauline, c'est parti.
Ok, plouf plouf, Pauline. Eh ben, je vais vous parler de Un océan d'amour, une BD de Wilfried Lupano qui a écrit pour Ma révérence, pour Les vieux fourneaux. Donc ça doit parler. Et Grégory Panaccione, je dirais.
Panaccione.
Donc, c'est une jolie BD sur un petit couple qui vient de Douarnenez. En Bretagne. Alors lui, il est un petit vieux, à grosses lunettes, il a une tête adorable. Elle, c'est une vraie bigoudaine bien dodue, qui fait bien la cuisine. Voilà, ils ont leur petite routine. Ils vivent tous les matins. Lui se lève pour partir à la pêche. Elle lui fait sa galette et pas crêpe, comme j'ai beaucoup lu.
On dit une galette.
On dit une galette quand on est breton.
Je te fais ta galette avant de partir, mon chéri. D'accord, je savais pas que ça se disait comme
ça. Voilà, tous les matins, elle lui fait sa petite galette. Elle lui prépare son panier repas avec sa petite boîte de sardines. Il en a un peu marre, mais bref, c'est comme ça. C'est leur routine et ils la changeront pas. Sauf que ce matin-là, le monsieur part dans son chalutier avec son l'autre pêcheur, quoi. Comment on peut dire
son collègue.
Son collègue, voilà. Et il ramasse, comme d'habitude, que des détritus, une pauvre petite sardine. La pêche donne plus rien. Et là arrive un navire gigantesque, une espèce de monstre, un bateau-usine, qui ramasse un filet bourré de poissons qu'ils ont été chercher bien au fond de la mer, là où il y a tout ce qui reste, le peu qui reste, bref. Et en passant, ce gros bateau va nous attraper notre petit chalutier avec notre marin. Et il va l'accrocher dans ses filets et il va se retrouver, il va sauver son collègue, il va lui dédier le canot de sauvetage, il va lui dire, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas du tout de dialogue dans cette BD.
Oui, c'est que des
images. Mais dans
images,
ma tête, ouais, il va lui dire, pars et va prévenir qu'on a eu un souci. Et donc, il se retrouve au milieu de l'océan, perdu. Alors, comme beaucoup de marins, il ne sait pas nager, donc c'est un peu compliqué quand il tombe à l'eau. Mais il va lui arriver plein de mésaventures, il va faire plein de rencontres un peu improbables, des pirates, la douane qui va l'attraper pour contrebande de sardines, une mouette qui est prise dans des plastiques, enfin voilà, plein de rencontres hallucinantes, et tout ce qu'il va essayer, c'est de retrouver sa Bretagne. Il va essayer de retrouver Douarnenez et sa petite femme, et sa petite Bigoudaine. Qui, elle, bah, du coup, ne voit pas le soir son mari rentrer et s'inquiète beaucoup. Alors, ses copines Bigoudaines essayent de la convaincre, il est mort, mais non, elle elle le sait, il est vivant. Alors, du coup, elle va prendre le bateau qui fait la liaison Douarnenez-Miami-Cuba.
Normal.
Pour essayer de partir à sa recherche. Donc, je vais m'arrêter là pour l'histoire, parce que sinon, je vais tout vous raconter, mais c'est hyper touchant, c'est drôle. Voilà, on a plus de 200 pages sans aucune bulle, et franchement, ben voilà, je suis dans ma tête. Moi, je me suis fait mes dialogues, hein, sûrement perso. Ça manque pas du tout, c'est hyper vivant, hyper rythmé. Les personnages sont à la fois mignons, rigolos. Il leur arrive, ben voilà, tous ces trucs improbables. Et puis, bon, évidemment, le fait que ce soit des Bretons, ça rajoute. Hein. Voilà. On se demande pourquoi c'est Breton. Donc voilà, un vrai coup de cœur, parce que bon, j'ai plein de gens qui l'ont lu autour de moi, c'est pareil, c'est vraiment un succès, c'est quelque chose qui est pour tout le monde, tous les adultes, les jeunes adultes aussi, un super cadeau à faire, ça va plaire à tout le monde. En dernière minute, n'hésitez pas à foncer, quoi.
Oui, c'est mignon et c'est drôle, et les personnages sont très expressifs aussi, donc c'est vrai que ça peut faire peur que ça soit sans parole, comme tu disais, mais finalement on se prend tellement au jeu, donc avec les images qui sont très bien, donc c'est parfait.
C'est hyper expressif, c'est hyper vivant, c'est génial.
Noir et blanc, couleur, les
couleur,
dessins, c'est en couleur.
Couleur, un peu délavé, un peu, bah voilà, l'ambiance, la mer, les marins, super.
Ambiance vieille boîte de sardines d'époque.
Exactement, ouais.
Qu'on retrouve dans une épicerie.
C'est super bien rendu, c'est extra.
Ça donne envie.
Ouais.
Exactement, une bonne BD pour commencer. Et Louise, j'ai la nourriture dans la bouche, donc je te laisse continuer. Excellente, ces huîtres.
Oui, merci de la poissonnerie.
Demande.
Madame Montero.
Je vais vous parler d'un petit livre qui s'appelle Madeleine Project. C'est un reportage de Clara Baudou. Donc c'est une histoire vraie. Et donc c'est une histoire assez particulière qui a commencé, qui a vu le jour sur Twitter. Voilà, donc a priori, on peut se dire « Oh là là, Twitter, nana, c'est
pas... » »« Oh là là, Twitter
!» Non, mais c'est vrai que moi, c'est pas un média qui m'attire forcément, je m'en sers pas, j'y vais pas. Et du coup, voilà, ce projet est né sur Twitter. Et en fait, Clara Baudou, donc ça part du fait qu'elle a déménagé, elle a changé d'appartement, elle a pris une petite location, ça se passe à Paris. Et en fait, l'agence lui dit, bah, y a une cave, mais on n'a pas la clé, donc voilà, c'est la numéro 16, débrouillez-vous. Et en fait, elle casse donc le cadenas de cette fameuse cave, de son nouvel appartement, et c'est rempli jusqu'au plafond de cartons, en fait, les cartons de l'ancienne propriétaire de l'appartement, Madeleine, qui était une vieille dame, voilà, qui est morte dans son appartement. Et voilà, donc elle essaye de contacter le neveu de Madeleine, la seule famille qui lui reste. Et elle lui dit, bah voilà, j'ai trouvé ça. Et il lui répond, bah non, mais j'avais engagé quelqu'un pour vider l'appartement. Ils ont dû oublier la cave. Voilà, faites-en ce que vous voulez, jetez tout. Et donc elle, au fur et à mesure qu'elle ouvre en fait les cartons de Madeleine, elle découvre une vieille dame très touchante, elle est très organisée aussi, elle classait tout, donc ses photos, ses lettres, etc. Elle a vécu la guerre, elle a plein de petits objets, de tissus, elle découvre une montagne de choses incroyables et elle commence à avoir envie de faire découvrir cette dame à tout le monde. Donc elle commence en fait... le déballage des cartons et elle prend des photos, elle les poste sur Twitter et elle partage ses découvertes.
Plutôt dans les thèmes voyeurs en ce moment.
Il va falloir qu'on en parle.
Oui, il va falloir qu'on en parle.
Plus mignon que la dernière fois.
Ah,
c'est vrai, Pauline.
Non, mais enfin, je sais pas, t'imagines cette dame, il reste toute sa vie dans ces cartons-là et c'était voué à la décharge, à la poubelle, et voilà qu'on retrouve en fait... une personne très touchante dans ces cartons-là. Et du coup, j'ai vraiment adoré ça. C'est un projet magnifique. Et ça fait 2 ans qu'elle fait ça, parce qu'il y avait énormément de choses dans cette cave. Donc du coup, petit à petit, à côté de son travail, elle fait ce projet aussi. Et elle va rencontrer des gens que Madeleine a connus. Voilà, c'est une vraie enquête. Et elle se pose pas mal de questions. Qu'est-ce que Madeleine aurait pensé de ça? Est-ce qu'elle aurait apprécié? Mais elle est confortée en fait par les anciens voisins, par exemple, qui lui disent voilà que Madeleine était une femme très gentille, très curieuse, qui aimait bien parler de sa vie, etc. Donc voilà, j'ai trouvé ça mais extrêmement émouvant, très touchant. Et du coup, c'est aux éditions du Sous-Sol. La même maison d'édition que le motel du Voyeur, effectivement.
Moi, on y arrive.
Dont on a parlé la semaine dernière. Et en fait, ils ont choisi de publier tel quel les tweets. Donc, c'est une lecture assez aérée. Donc, un tweet, c'est je ne sais pas combien de signes maximum, c'est ça ?
5 maximum.
Merci Valérie.
De rien.
Et donc, du coup, voilà, il y a les photos, il y a les petits tweets. Et on découvre au fur et à mesure... Madeleine et aussi Clara, du coup, à travers cette vieille dame. Et c'est super, et ça continue sur Twitter et sur Facebook, et c'est pas encore fini. Voilà.
Et est-ce que la vie de cette vieille dame est intéressante, quand même ?
Oui, vraiment, parce qu'elle a beaucoup voyagé, notamment aux Pays-Bas, au Maroc. Elle était passionnée de voyage, c'était une instite, elle gardait tous les petits dessins que lui faisaient ses élèves. Elle a eu un amour contrarié, Son petit ami pendant la guerre est décédé, donc du coup, voilà, il y a toute cette histoire aussi pendant la guerre qui est vraiment touchante, qu'on découvre à travers les lettres en fait de son fiancé à l'époque. Et non, voilà, elle a pas eu d'enfant, Madeleine. Et non, ça avait l'air d'être une sacrée dame, ouais.
Et le neveu après a pas voulu profiter de la gloire de
Non, non,
de
non.
Madeleine.
En fait, elle a contacté évidemment après le neveu pour lui dire je fais ça. Est-ce que ça vous contrarie, etc. Il était très touché. En fait, il a découvert plein de choses aussi sur Madeleine. Et donc il lui a dit mais continuez. Je vous laisse ses affaires. Il lui en a même donné d'autres qu'il avait gardées. Enfin voilà. Ça s'est passé dans des très bons termes.
Super.
Voilà, donc Madeleine Project de Clara Baudot aux éditions du Sous-Sol. Et c'est un super truc, très touchant.
Super, merci Héloïse. Ouais. Donc voilà, c'est sous forme de tweet, hein, c'est un peu inédit ce genre de livre.
Oui, c'est comme des cas, comme si on avait son fil, je sais pas comment on dit, sa tweet list, son fil
oui,
d'actualité.
Oui, son fil d'actualité, oui.
Son fil d'actualité Twitter, merci Tom.
Voilà, Tom, notre stagiaire Twitter. Voilà. Ok, super, Valérie.
Oui,
à toi la parole.
C'est vrai, ça peut durer longtemps.
De quoi ? De te donner la parole ?
De me donner la parole.
Parce que ça t'a
plu ?
Surtout
quand j'ai un livre qui me plaît. Moi même aussi. Ça en fiche.
D'accord, mais je vais parler de mon livre alors, d'abord. Voilà, donc, comme ça tu réfléchiras.
Non,
vas-y,
c'est bon, j'ai pas besoin de fiche.
Vas-y.
je vais vous parler de Mimi, Fifi et...
Loulou.
Et j'ai vu, alors je n'ose pas dire, Mimi, Fifi et Glouglou.
Glouglou.
Voilà, Mimi, Fifi et Glouglou. Donc c'est une sorte de petite BD. Oui, il faut que je rapproche ma bouche du micro vu que je n'ai pas de voix. C'est trois copains, trois bons amis qui vouent une même passion, non pas pour les castors juniors, mais pour la boisson Glouglou Vem. Et leur passion, c'est de faire des dégustations, donc assemblage, sulfite, cépage. Le but de leur dégustation, c'est d'arriver à trouver donc le nom du vin, son année, le nom du producteur, le nom de la cousine sur 3 générations du producteur. Enfin, ils sont vraiment à fond là-dedans. Donc c'est chaque page, il y a une petite histoire. Hein. Donc chaque fois, bien sûr, ça a rapport à leur soirée, ou voire journée, voire week-end de dégustation. Ils cassent un petit peu ils se moquent gentiment, voilà, des grands dégustateurs de vin qui se font de la masturbation œnologique.
Par exemple, ils crachent ou pas, Mimi, Fifi, Glou?
Non, non, ils avalent.
Eh oui, voilà.
Voilà.
Comme nous.
Beaucoup, voilà. Mais voilà, alors c'est drôle, c'est fin, c'est
Ils ont quel âge ?
Oh, je pense qu'ils ont dans nos âges à peu près.
D'accord, 20 ans.
C'est ça, 20 ans, 20-25 ans, voilà.
Ouais.
Voilà, non, plutôt 35
ans. Et c'est quoi, c'est sous forme de bande dessinée, de dessin Merci de préciser.
Pardon, mais je l'avais dit que c'était de la BD. Il n'y a que toi qui n'as pas écouté.
Ah, pardon, voilà. Autant pour moi alors.
C'est des bulles carrées.
Oui, c'est pas des dessins très figuratifs, il faut dire.
Ouais, mais on ressent bien quand même des expressions. Il arrive en fait, rien qu'avec les yeux ou la bouche, à faire un. Ou même la position des corps à faire passer des messages. Et en fait, tout en se moquant, on apprend énormément de choses sur le vin. Et c'est super bien renseigné. Par exemple, il se moque énormément des nouveaux vins sans sulfite, des choses comme ça. Et en fait, tout en se moquant, il donne envie de les découvrir. Mais c'est super drôle. Hein. Et il y a un fil rouge en fait qui revient. Alors moi, c'est mon préféré. C'est chaque fois, il y en a un qui est un peu plus, j'allais dire, il a pas de mental. C'est-à-dire que chaque fois, les deux autres, ils sont trois. Les deux autres lui disent « Allez, viens, on va manger chez un tel ». Et chaque fois, il dit « Non, non, j'ai du boulot, je peux pas ». Et finalement, il se retrouve à table au resto. Et chaque fois, ça se finit de la même façon. Il commande une dernière bouteille et on voit la pendule derrière où il est 16h. Voilà. Et c'est un peu le fil rouge. Et voilà, ils sont super attachants. On a envie d'aller faire des dégustes avec eux. Et on se rend compte aussi qu'ils font les pros. Mais ils sont souvent très très à côté de la plaque quoi. Ils sont un peu comme au casino, c'est bon là j'ai perdu mais je vais me refaire. Bon là j'ai perdu mais je vais me refaire. Et voilà, ils vont même sur une des pages, c'est les deux des copains sont chez le troisième, ils commencent à boire une bouteille qui est carafe, ils prennent du vin qui est dans une carafe et ils commencent à faire l'éloge de ce vin en disant punaise ouais, il doit être ouvert depuis ce matin, il a bien aéré, il est bien. Et le gars arrive de sa cuisine, il dit « Oh là là, surtout buvez pas ça, ça fait 3 jours que je l'ai ouvert, c'est horrible enfin, !» Et il pousse pas mal sur ça, et voilà, et ça donne énormément envie de... Ben, là, moi, j'ai le tome 1, mais il y a un tome 2. Le tome 1, c'est le petit traité de dégustation, et voilà, on a envie de voir le tome 2.
Le tome 2, c'est quoi, on le sait, Héloïse?
Alors, non, c'est non. Mimi, Fifi et Glouglou 2, en fait. Ouais. Je sais pas si même il y a un sous-titre.
D'accord.
Non, c'est peut-être le même.
Mais du coup, oui, c'est vrai qu'ils sont assez novices et ça fait penser clairement à nous. C'est-à-dire qu'on peut aussi apprécier du vin sans pour autant s'y connaître énormément. Et c'est vrai que c'est chouette comme idée.
Ouais, et puis ils sont géniaux parce que des fois, ils se remettent en cause. Ils font « Bon, allez, maintenant, il faut qu'on arrête de faire ça. Chaque fois, on boit trop parce que, bon, ils crachent pas. Et vraiment, il faut qu'on arrête. Et puis, t'as 4 bulles où il n'y a rien. Et puis après... Bon, à l'heure qu'il est, on pourrait bien en ouvrir une. Et puis ça... Mais c'est bien documenté en même temps. Donc, c'est pas potache, c'est pas alcoolo-brelo. C'est drôlement bien fait.
Oui, il y a un vrai intérêt, ouais. Une vraie curiosité pour ouais. Le vin. Quoi,
voilà, mais... et je disais un peu en interview de Michel Tolmer, donc, qui est l'auteur. Et il disait voilà, qu'il voulait faire quelque chose de simple, sans prise de tête, parce que lui aimait bien le vin, il avait des amis vignerons, il avait envie un peu de leur rendre hommage dans ce livre. Et je trouve que c'est très 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 bien fait à offrir donc à toute personne de votre entourage qui a de
l'humour. Plutôt public adulte.
Oui, plutôt adulte, ouais. Adulte et qui peut se sentir un peu, se retrouver dans ces personnages, plutôt l'épicurien adulte. Voilà, celui qui n'aime pas rire et qui n'aime pas boire, il ne se reconnaîtra pas dedans, il ne comprendra pas.
Et du coup, l'auteur, il parle de lui, un petit peu de lui et ses amis, il s'identifie
ouais,
un peu au
personnage. Oui, parce qu'il disait, Michel Tolmer, qu'il ne connaissait rien en vin, mais qu'il appréciait voilà, de faire des... pas forcément de dire de faire des soirées dégustation, mais de boire une bonne bouteille de vin entre amis. Ouais. Voilà.
Très bien, merci Valérie.
Eh bien, avec grand plaisir.
Et c'est aux éditions de L'Épure.
Oui, c'est
les éditions de L'Épure. Une maison d'édition de cuisine. Ouais. Ils font des livres super en gastronomie et en cuisine.
Oui, mais ça donne envie de manger aussi en même temps.
Ah, et j'ai parlé d'un livre pour les plus petits, pour les plus jeunes, hein, comme on n'en a pas parlé encore, on peut commencer à lire à 3, 4 ans, jusqu'à 10, 12 ans à mon avis. Un livre chez Seuil Jeunesse qui s'intitule « À l'intérieur des méchants » de Clotilde Perrin. Tu nous parleras un peu de cette maison d'édition après, Héloïse, parce qu'il y a un autre livre qu'on avait présenté dans une précédente émission qui ressemble un peu à celui-là, il me semble.
Un livre pop-up comme ça ?
Voilà, pop-up, non ?
Je me souviens pas, c'était quoi ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, mais on ne vous le présentera pas alors.
Je réfléchis.
C'est pas grave. C'est un livre où ce sont les méchants qui sont à l'honneur. Trois méchants exactement. Le loup, l'ogre et la sorcière. Et donc, trois pages sont consacrées à chaque méchant. Dans un format, donc, c'est un format assez grand qui se rapproche un peu du A3, mais qui est un peu moins large, un peu plus long. Donc, un format assez grand. Avec une première page qui s'intitule « En savoir plus sur moi », donc divisée en plein de petites rubriques avec les points forts, les faiblesses, les plats préférés, les peurs, les caractéristiques physiques, les signes distinctifs, les jeux, la bibliothèque qui reprend l'ensemble des histoires où le méchant est présent. Par exemple, facile, concernant les peurs du loup. Pauline, Valérie, quelles sont-elles ? De quoi le loup a peur ?
Le chasseur, non ?
Le chasseur, ensuite.
Les enfants qui crient.
Les enfants malins. Le feu,
ah oui,
et la marmite bouillante pour sortir les trois petits cochons. Ah, à la fin, ils tombent dans une marmite. Deuxième page, c'est une histoire complète sur le personnage. Donc, en l'occurrence, il y a le loup et les sept chevreaux. Pour l'ogre, c'est Jack et le haricot magique. Et Alyoshka et Baba Yaga pour la sorcière. La troisième page, c'est une page qui permet de plonger à l'intérieur des méchants et découvrir ce qui se passe dans leur tête, sous leur costume et dans leur poche. Donc pour cela, il faut soulever ce qu'ils appellent des flaps. Voilà, c'est comment on pourrait le définir à l'antenne
Du pop-up.
Oui, il y a plein de petites choses à découvrir. En fait, il y a le personnage qui est vraiment en grand. Et donc, il y a plusieurs tirettes et plusieurs flaps à ouvrir. Et donc, on découvre tout plein de choses. Par exemple, là, à la place du cœur du loup, quand on ouvre le petit truc, il y a un cœur avec marqué « chair fraîche » en mode tatouage de marin. Sinon, dans la tête, il y a « mes idées lumineuses ». Donc, prendre le chemin le plus court, prendre des déguisements, se faire inviter dans les maisons, etc. Voilà. Donc, on entre vraiment à l'intérieur des méchants dans dans leur tête, dans leur estomac aussi, et ça fait un peu peur.
Voilà, et pour l'avoir testé sur un enfant de 4 ans, il a adoré le tout. Que ce soit justement de jouer avec ce personnage, que ce soit l'histoire qui est l'histoire assez longue. Hein, c'est pas voilà, une petite histoire de 2 minutes pour raconter avant de dormir. C'est une histoire qu'on peut raconter avant de dormir, mais qui est beaucoup plus longue, bien détaillée. Et donc après, cette troisième page qui reprend un peu les caractéristiques de chaque personnage, qui est aussi intéressante. Un très beau livre à offrir pour Noël, à mettre au pied du sapin. Voilà, si
j'adore
vous avez
les couverts de l'ogre.
Dans la veste à l'intérieur.
Il a caché sa fourchette et son couteau. Voilà, moi aussi, je l'ai testé sur un enfant de 4 ans.
Parce que d'ailleurs, à l'intérieur, il y a des couteaux découpés qu'on peut enlever, on peut jouer avec la sorcière, il y a le chat.
C'est ça.
Voilà, ça marche extrêmement bien, c'est surtout un bel objet.
Les passe-temps de l'ogre, par exemple, compter mon or, écouter des solos de harpe, manger, dormir, manger, dormir, manger, manger, manger.
Je suis un ogre.
Pourquoi tu aimes les solos de harpe ?
Ah, c'est ça.
Voilà, je me disais aussi.
Ce que je déteste, les légumes, les haricots en particulier, faire du sport, les voleurs de poules, les enfants trop petits ou trop maigres et les chats trop malins.
Voilà.
Oui, il y a plein de références en fait aux contes classiques aussi, c'est intéressant.
C'est ça,
tout le long. D'apprendre des choses sur les contes de Perrault, Grimm, etc. par ce biais-là. Ouais.
Voilà, et donc dans la rubrique bibliothèque, on retrouve toutes les histoires où ces personnages apparaissent, que ce soit le loup, l'ogre ou la sorcière. Et donc beaucoup d'histoires qu'on connaît, hein, par exemple les petits chaperons rouges, les trois petits cochons, etc. Il y a d'autres histoires moins connues avec le loup. Et on retrouve par rapport à ces histoires, une fois qu'on les a lues, les caractéristiques qui sont proposées comme manger de la craie. C'est l'histoire qu'il y a dans ce livre, le loup et les sept chevreaux, où il mange de la craie pour avoir une voix plus douce, pour que les chevreaux lui ouvrent la porte quand la maman est partie, etc. Donc oui, c'est vraiment intéressant et c'est surtout joli. Joli, oui. et interactif.
Par contre, les enfants, ne mangez pas de craie, ça ne rend pas joli.
Et ça ne rend pas la voix douce.
Ça ne rend pas la voix douce.
J'ai essayé,
oui.
Vous voyez ma
peut-être
voix.
Du miel, là, éventuellement. Mais...
ça ne marche pas. Allez, on va faire une pause musicale. Molly Rankin, c'est une chanson que tu nous as proposée la semaine dernière, qu'on n'a pas eu le temps de passer.
Oui.
On va l'écouter maintenant. Et après, j'aurai une petite chanson de Noël aussi.
Super.
Parce que j'aime bien, c'est Noël.
Marble, but he tastes like granite. Hard as a rock, and I'm rolling right over. Kick
kicked and I screamed. He held his composure. He comes and he goes and he knows I won't follow. Something in my pride that I just can't swallow. He pulls and he grabs, I can't control it. He's a hole in my jeans, I just can't.
Ok Valérie ?
D'accord.
On est d'accord ?
On est bien d'accord.
Allez, très bien.
Les choses sont claires, cher Ludovic.
Allez, Pauline qui a peur de l'ouverture des bouteilles de champagne, je vais te laisser présenter ton livre. Comme ça, je vais pouvoir ouvrir, tu t'en rendras même pas compte.
La pression, là. Bon, alors, mon prochain livre, c'est Invention improbable. C'est par Annie Pastor et c'est chez Fluide Glacial. Alors c'est un livre assez génial sur les inventions, vraiment des inventions super qu'on jamais trouvé leur public. Alors que
ah,
c'est...
cool.
Ouais. Donc par exemple en couverture on a la cage à bébé. Donc c'est assez génial, c'est pour les gens qui vivent en appartement, vous n'avez pas de jardin.
Tu m'étonnes que c'est pas trouvé preneur.
Mais c'est excellent comme idée.
Ouais.
Voilà, enfant, donc vous avez cette petite cage à accrocher, à accrocher à votre fenêtre. Vous mettez votre bébé dedans et il prend l'air.
Moi, je trouve ça très bien.
Voilà, c'est ce que je trouvais. Donc, c'est voilà, plein d'inventions hyper ingénieuses comme ça.
Mais pour mettre ton mari, toi. Hein? Pour mettre ton mari,
oui,
toi.
Mais attends, c'est, tu choisis. Soit il prend l'air, soit il est intoxiqué au monoxyde de carbone.
Voilà.
C'est un choix.
Bon, voilà, en fait, c'est un, ouais, vous l'avez compris, c'est un bouquin sur des inventions complètement improbables, un peu délirantes, soit parce qu'elles sont dangereuses, soit parce qu'elles sont... pas du tout utile. Par exemple, je sais pas, il y a la valise estrade que j'ai trouvé très drôle. Donc une valise, tu l'ouvres et puis ça te fait ta petite estrade quand tu as besoin de parler en public.
Excellent.
Moi, ça m'arrive souvent d'avoir besoin de parler en public. Et j'ai pas, j'ai pas de piédestal.
Quand tu vas te faire orateur en jardin public.
Voilà, des trucs absolument pas pratiques. Alors un système de sécurité contre les voleurs. Donc t'as tout un système de tuyauterie à accrocher à tes fenêtres, à ta porte d'entrée, tout ça. Et comme ça, s'il y a une intrusion. Et ben ça déclenche une douche dans ton lit. Voilà, donc ça te réveille.
Excellent.
C'est malin.
Voilà.
Et là, t'es trempé face aux voleurs. Voilà. T'as pas l'air bête.
C'est que des trucs super bien pensés comme ça. C'est
allez,
assez
une autre.
Drôle.
Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des schémas, des dessins,
ouais,
des photos.
Des dessins. En plus, les dessins, ils sont assez sympas. Il y a des photos, des dessins.
Reviens près du micro.
Pardon. Des photos, des dessins.
On va inventer un genre d'élastique que tu mets autour de la tête et autour du micro pour pas trop t'éloigner.
Dans le bouquin, ah, pourtant, ça aurait inventé. Été... Voilà, bon, franchement, celles qui sont les plus hallucinantes, c'est celles des bébés. Hein. Je pense qu'ils ont, c'est pour ça qu'ils ont mis la cage à bébé sur la couverture, parce que
super malin. Hein.
Ouais, voilà, c'est des trucs, c'est que des trucs comme ça, les range bébés pour le train. Pourquoi? Alors c'est en fait un sac que tu accroches sur le truc à bagages et puis ton bébé, il est complètement enfermé dedans, il peut absolument pas bouger. Ou t'as le super masque un peu Hannibal Lecter, tu sais, pour que ton enfant arrête de sucer son pouce. Donc une invention quand même assez géniale. Voilà, donc c'est un livre, bah on rigole bien, c'est plutôt sympa. Après, il y a des petits textes en plus qui n'étaient pas forcément hyper utiles. Voilà, ils en rajoutent sur les photos qui étaient déjà assez parlantes en elles-mêmes, mais qui sont parfois assez drôles. Et il y a un truc que j'aurais aimé savoir, c'est si toutes... Alors, certaines ont été commercialisées, ils le disent au début, mais ils ne disent pas lesquelles, et surtout, ils ne disent pas si elles ont été vendues. Parce que, enfin, il y a des choses où tu te dis, c'est pas possible.
Mais après, le premier exemple que tu as donné, la cage à bébé, là, pour le mettre sur le rebord de la fenêtre, ça a été commercialisé. Il y en avait beaucoup aux États-Unis.
Ouais.
Tu as grandi en cage à bébé?
Oui. J'ai grandi aux States, à Miami, et j'avais une cage à bébé.
Ouais, t'avais l'air sûr.
Ah ouais, ça a été... Il y a des gens qui ont acheté ça.
Il y a beaucoup de photos comme ça avec des immeubles. Ouais, il y en a une dizaine de cages sur les immeubles. C'est assez fou. Ouais.
Mais quelle
horreur. Si on te dit, ton bébé, il faut l'aérer, tout ça, mais que t'as pas de jardin, que t'as 10 étages à descendre à pied, tu dis, je fais comment pour aérer?
Tu descends les 10 étages, Valérie, voyons.
Mais à l'époque, on se disait peut-être que c'était des super bonnes idées. Qui dit que dans 40 ans, on trouvera pas que, je sais pas, moi, les trotteurs, c'est débile.
La teinture de cheveux radioactive.
Je suis pas au courant.
Avant, on faisait de la teinture de cheveux pour que les cheveux brillent avec des produits radioactifs. C'est semblé être une super idée, mais au final, c'était très dangereux. Quoi.
Ah bah, il y a plein de super combinaisons anti...
Envoyé ta teinture dans le noir.
Il y a plein de trucs anti-radioactivité, plein d'idées super, notamment un masque pour se protéger le visage de la radioactivité. Je pense que c'est vachement utile. Voilà, c'est plein de trucs super drôles.
Tchernobyl, ça aurait marché.
Eh bah oui, parce que ça s'arrête au masque, comme le nuage s'arrête à la frontière. C'est particulier. Donc non, c'est un livre drôle, c'est fluide glacial, donc évidemment, oui, c'est drôle et ça marche. Et c'est un petit cadeau sympa, ouais, c'est assez rigolo, vous allez faire rire l'assemblée en l'ouvrant à Noël, il n'y a pas de souci.
Et ton préféré alors?
Ah bah, la couverture, ouais, la cage à bébé, c'est incroyable ce truc.
C'est quelle maison d'édition?
Fluide glacial.
D'habitude, ils font des BD, mais là, ouais, ils font quelques beaux livres pour Noël qui sont vraiment marrants. Ouais. Dans l'esprit de leur BD, en fait, humour un peu potache.
Ouais. Et ça marche bien.
Je savais pas qu'ils éditaient Fluide glacial.
De temps en temps.
Ils ont édité quoi par ce livre?
Alors, tu me poses une colle, je sais pas.
D'accord.
Je sais pas. Ils éditent aussi des monographies sur des auteurs de BD, des documentaires en fait sur la BD qui sont vraiment chouettes, et des livres humoristiques comme ça, genre Noël c'est nul ou des trucs voilà.
Et ouais, mais Noël c'est bien.
Et Noël c'est bien.
Et oui, Noël c'est
bien. Un abusé, ça craint.
C'est ça.
Pas du tout.
Allez, je vais vous présenter mon deuxième livre. On va changer de sens pour pour casser la routine un peu. Ouais. Allez, un livre sur SoFoot, le livre de Noël de SoFoot, sur les années 70. Les années 70, football total, napalm et poteau carré. Alors, pour ceux qui connaissent SoFoot, c'est toujours des sujets un peu transversaux, des histoires qui sortent de l'ordinaire, des histoires en rapport avec la géopolitique de l'époque, alors des photographies fabuleuses. Et au final, c'est un témoignage footballistique et également historique de l'époque. Moi, en tant que fan de foot, je suis encore plus fan de SoFoot parce que c'est vraiment une autre vision de ce sport. Et ça va même au-delà du sport, hein. C'est une vision donc de l'époque, en l'occurrence des années 70. Donc par exemple, dedans, on peut retrouver l'interview...
Joël Batz
dans les années 70.
Ah, mais
on peut retrouver l'interview de Panenka, qui a inventé dans ces années-là quel geste technique. Vas-y Valérie.
La Panenka, en fait, c'est un coup de pied retourné.
Non, pas du tout. Mais ça s'appelle la Panenka. Non, c'est du foot. Et je donnerai la parole à la fin à Héloïse, qui est passionnée de sport, qui le sait certainement. Pauline, la Panenka.
J'étais sur le coup de pied retourné avec Valérie, c'était pas mal, non?
Non, pas du tout. Allez, Héloïse.
J'irai une roulette, non?
D'accord, pas du tout. Panenka, c'est un penalty qui est tiré en feuille morte. Donc, il tape doucement et ça fait un petit lobe. Le gardien plonge et du coup, le ballon vient tout doucement. Zidane en a fait une à la Coupe du Monde, la finale de Coupe du Monde qu'on a perdu contre l'Italie. Le penalty qui marque, c'est une Panenka.
C'est ce que tu fais au ping-pong aussi, des fois, pour perturber ton adversaire.
Il faisait souvent ça, ce monsieur, du coup.
C'est lui qui l'a inventé. D'accord. C'est pas qu'il le faisait souvent, mais c'est le premier à avoir fait ce geste. Tous les joueurs tirent en force sur un côté ou tout droit.
Il devait être tellement surpris, le gardien, la première fois que ça lui est arrivé.
C'est ça.
J'espère que c'était pas Joël Batz.
Après, le problème, c'est que si... c'est ça. Si le gardien ne plonge pas, le problème, c'est que c'est un pénalty qui est facile à arrêter. C'est arrivé à Mickaël Landreau, grand goal du FC Nantes, qui a tiré une Panenka en finale de Coupe de France et qui s'est un peu fait humilier.
C'est audacieux.
Oui. Tout à fait. Alors, du côté des photos, on retrouve bien entendu le décor des années 70 avec des photos kitsch de footballeurs dans leur salon avec leurs femmes, leurs tapisseries, les enfants. C'est vraiment énorme, quoi. Dans leur voiture, leur coupe de cheveux, des joueurs qui fument, qui boivent dans les vestiaires. Ça ne ressemble pas du tout aujourd'hui. Alors, on voit des photos dans les vestiaires où ils boivent des bières en fumant des clopes. Mais à l'heure actuelle, journaliste prend une photo dans des vestiaires de joueurs professionnels en train de fumer, mais ça fait un scandale.
Déjà, c'est comment il s'appelait, le chauve, la Fabien Barthès, hein, il fumait une cigarette les yeux d'un lait bleu, ça a fait scandale.
Voilà. Et encore, c'était l'époque, fin des années 90, on pouvait encore... Après, ça a été compliqué. Les sèche-cheveux. Vous voyez les sèche-cheveux, les grands bols qu'on met. Mais il y avait ça dans des vestiaires, quoi.
Ouais, mais les mecs, ils avaient des permanentes, ils savaient se coiffer à l'époque.
Ils avaient des permanentes, ouais.
Bien sûr.
Alors, on voit des photos aussi d'hooligans de l'époque, l'épopée des Verts, les poteaux carrés, c'était dans les années 70. Côté histoire, on refait un point sur la guerre froide et la junte militaire, sur le Kaiser rouge Paul Breitner, c'est que vous ne connaissez pas, mais que vous allez connaître si vous achetez ce livre, sur la controversée Coupe du Monde en Argentine avec la dictature, des matchs arrangés, sur l'équipe du Zaïre, sur l'équipe fasciste de la Lazio de Rome, sur le début aussi du foot business, ça a un peu commencé à cette époque-là. Et comme c'est sauf foot, on aime aussi la musique et le ciné, donc dedans on parle de Bob Marley, on parle de Patrick Dewaere dans Coup de tête, on parle bien sûr de ce footballeur George Best qui était un footballeur phare de cette époque, qui était totalement dans l'originalité, on pourrait dire. On parle sur des anecdotes comme cette manita infligée par le Barça de Cruyff au Real de Franco, de ses 5 buts mis par Barcelone au Real Madrid qu'il ne pouvait pas célébrer de peur d'avoir des problèmes, de peur de la réaction du dictateur espagnol. On parle également, c'est au foot, de loser, alors de type complètement fou. Alors, est-ce que vous connaissez ce grand footballeur qui s'appelle Stan Bowles?
Non.
Mais moi non plus. Alors, il y a des anecdotes sur Stan Bowles, ce footballeur inconnu. Je vous en lis trois, c'est extrêmement drôle. Alors, il a réussi à manquer un avion qui avait 4 heures de retard. Voilà, donc ça c'est quand même énorme, quoi. Il va louper l'avion. Il dit « Désolé, je n'ai pas pu venir, j'ai loupé l'avion, mais l'avion avait 4 heures de retard. » À la fin de sa carrière, il confiait aux journalistes qu'il était fauché avant de les attaquer en diffamation et de rembourser ses dettes de jeu avec l'argent obtenu grâce au procès. C'est quand même énorme, quoi. En 72, il a emprunté une ambulance pour arriver à l'heure au match. Détail important, Stanley n'a jamais eu le permis. Okay. Voilà, donc c'est SoFoot, foot, c'est vraiment un beau livre pour les fans de foot, et même au-delà.
Au-delà, parce que c'est vrai que moi j'aime bien regarder le foot de temps en temps, mais je lis pas les magazines 11 ou je lis pas l'équipe non plus. Mais SoFoot, c'est un magazine à la base et je le lis avec plaisir parce qu'il y a tout plein d'anecdotes, c'est très drôle, les articles sont bien écrits, il y a des vrais reportages sur plusieurs pages, c'est beaucoup d'histoires du foot aussi, et c'est passionnant parce que le football c'est aussi des personnalités, des personnages, des gens très drôles, parfois malgré eux, quoi. Donc, voilà.
Voilà, c'est un vrai reportage sur ces années 70, sur le style de l'époque, les pattes d'eff.
Un peu à la Donald Trump, là, les photos dans le salon.
Même la casserole, là, dans la cuisine, elle est fantastique.
Normal.
Génial. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un bon bouquin pour ceux qui s'intéressent, oui, au sport, au football. Et
c'est la première fois que SoFoot fait un album?
Non, ils en ont fait plusieurs, oui, des livres. Ouais.
Ils ont fait les années 80 ou pas?
Je crois, l'an dernier je t'en avais pris un de SoFoot, c'était sur une autre époque il me semble.
Ouais.
Donc voilà.
Ils en font souvent. Ouais.
En plus pour les nostalgiques de cette époque, on peut retrouver toutes les photographies, les histoires. Il y a un paragraphe aussi spécial équipe de France avec l'épopée Platini, enfin le début de l'épopée Platini, qui perdait tous leurs matchs. On voit vraiment le décalage entre cette époque et l'époque actuelle. SoFoot qui en magazine, Héloïse, a sorti SoFilm,
Sofilm et Society aussi.
Et Society et Sopédal aussi, je crois, sur le vélo.
Sopédal, mais juste pendant le Tour de France.
Le Tour de France.
Ouais. Et c'est qui en couverture, du coup ?
Et en couverture, c'est bien entendu Johan Cruyff, qui est adepte d'un football total, où il disait « Le gardien est le premier des attaquants de mon équipe et, et l'attaquant est le premier des défenseurs. » Donc, où tout le monde devait tout faire. Et c'est vraiment le meilleur joueur de l'époque, Johan Cruyff, voire le meilleur joueur du monde, bien que ce soit difficile de comparer les époques.
Très bien.
On voit Rocheteau qui joue de la batterie, on voit Arsène Wenger, voilà, j'ai retrouvé.
Je suis fan. Ouais.
Pour sécher les cheveux, c'est pas énorme,
la boîte
ça.
À tif. Ouais.
La boîte à tif. Ouais. Allez, il nous reste deux Super. Livres et beaucoup de temps. Enfin, il nous reste 20 minutes de livres.
C'est rare, d'habitude c'est plutôt l'inverse. Il nous reste 20 livres et 2 minutes de temps.
Allez, on fait une petite pause encore musicale.
Oh, oui, ça, allez, parce que t'as une surprise pour nous.
Ah, mais moi j'aime bien ma chanson de Noël que je mets chaque année de la Compagnie Créole. Donc, on va l'écouter, en plus je sais que ça vous fait plaisir. Hein, on la chantera
je
pas cette année.
Je l'attendais.
Ah, tu l'attendais. Allez, c'est le point géographie avec Héloïse, Port-de-France.
Fort-de-France, pas Port-de-France déjà.
C'est ce que j'ai dit, pardon.
Non, on salue nos amis des Dom-Tom.
Voilà, qui nous écoutent nombreux.
C'est ça, en plein milieu de la nuit.
J'ai toujours rêvé de dire ça.
Bon,
C'est à moi, c'est ça ?
Oui, parce que...
Elle trépigne d'impatience de nous présenter son livre au titre imprononçable.
Je trépigne pas d'impatience de parler allemand, mais bon, je pense que je vais pas y couper.
Allez.
Parce que mon livre s'appelle Schadenfreude.
Très bien.
Il y a un coup de pied à Freud.
Oui, c'est ça.
Il y a un mot pour tout. C'est-à-dire que la langue allemande est vraiment très riche et qu'il y a un mot pour pas mal de choses assez improbables, notamment, par exemple, l'odeur d'une voiture neuve.
Ah oui.
Ou retrouver de mémoire où se situe un passage précis dans un livre. Ou le soulagement et le délice procuré par une soif parfaitement étanchée. La soudaine et vivifiante clarté offerte par de nouvelles lunettes.
Ça me semble indispensable que tu nous dises comment on peut mettre un mot sur la soif étanchée.
Et donc, l'odeur d'une nouvelle voiture, par exemple. Donc, littéralement, quand c'est traduit en français, ça fait « automobile, fourbi, couvé, garniture, nouveau, odeur, délectation mmh. ». Et donc, en allemand, ça se dit « Kraftfahrenzeugt, innen aus, statt tux, neugeruch, genus ».
Donc, par exemple, quand quelqu'un rentre dans ta voiture neuve, l'allemand c'est capable de te dire « Oh, j'adore le Kraften ».
Par exemple, là, celui-là, je l'adore. « L'effort épuisant de se montrer courtois quand on est invité. Mmh. » Ou alors « Donner un coup de pied dans un tas de feuilles d'automne. » Enfin, il y a des choses mais hallucinantes, c'est vraiment. Ils inventent des mots. En fait, c'est vraiment des mots assemblés en fait, de la langue à la base. Mais ils en font un nouveau mot. Et du coup, il y a des mots pour tout. Et c'est très drôle. Et c'est très intéressant aussi de voir d'où ça vient. Et donc, voilà, vous avez ici dans ce livre une petite compilation de tous ces mots improbables et des mots les plus longs du monde, sans doute, parce que c'est long.
C'est des mots qu'on retrouve dans les dico allemands, c'est pas...
Voilà, oui, oui. Et donc, vous avez le mot, vous avez donc évidemment la prononciation en phonétique, parce que pour ceux qui ne font pas allemand et qui ne savent pas lire la police gothique, c'est compliqué. Ensuite, la traduction en français, la traduction de l'expression et la traduction mot pour mot, en fait. Feindre la surprise à une surprise partie, par exemple. Voilà, c'est un mot. Donc, et voilà. Et à côté, vous avez des petits articles, en fait, sur la définition du mot et comment il est apparu dans la langue, à quel moment. Donc, c'est des petits articles, en fait, c'est beaucoup de sociologues, beaucoup de romanciers aussi qui les ont utilisés une première fois. Dans des bouquins, et voilà, je suis pas sûre que les Allemands les utilisent tous les jours, mais c'est quand même vraiment intéressant pour les gens qui s'intéressent voilà, au maniement des mots, et c'est drôle, voilà.
Il faudrait trouver des amis allemands qui puissent nous dire s'ils utilisent ces mots ou pas.
Ouais. Le sentiment d'abattement quand votre avion de papier s'écrase immédiatement au sol. Votre avion de papier.
C'est énorme.
C'est quand même fou.
C'est extra, ouais.
Et c'est, comment tu le dis, Louise ?
Luftfahrt origami nidur geschlagen heite. Là, il faut dire que je fais des pauses entre les différents mots, mais c'est un seul mot, en fait. Hein. Mais je ne peux pas le dire plus vite, même si j'ai fait allemand première langue.
Alors, pour tous les gens qui font du camping, ce serait bien qu'ils achètent ce livre, qu'ils apprennent les mots pour les ressortir au camping avec leurs amis allemands. Ça pourrait être sympa.
Rassurer son coiffeur.
Comment tu dis ?
Harmonie. Voilà. Donc, c'est vraiment... Enfin, moi, je pourrais y passer des heures à lire ça et à me... Et à me renseigner parce que je trouve ça vraiment, vraiment chouette.
Mais sinon, Schadenfreude, ça veut dire quoi ?
Il y a un mot pour tout.
Ah, mais c'est vraiment la définition de... D'accord.
Voilà. Et c'est aux éditions du sous-sol, tiens.
Ah, les revoilà. Et c'est un joli livre en plus.
Oui, il est très beau.
Il a un format sympa. Ouais. Et on dirait que les mots sont écrits sur une partition, en fait.
Oui, c'est ça.
C'est parce que c'est vachement chantant,
l'allemand.
Mais
c'est très musical, oui. Finalement, c'est vrai qu'on aurait tendance à dire que c'est pas une langue agréable à l'oreille, mais c'est vrai que c'est musical.
Par contre, à qui l'offrir ? Qui offre ce genre de livre et à qui ? Ça m'intéresserait de le savoir.
Non, mais c'est rigolo à lire. Moi, j'aimerais bien que tu me l'offres, Ludo.
Oui, non, mais pour les gens qui aiment...
Moi, j'ai jamais fait d'allemand, mais
d'accord,
c'est...
Ben, tu
non,
vois,
mais c'est rigolo,
quoi.
Tu vois, de...
Ok.
Non, mais c'est des bonnes anecdotes à sortir pendant un repas où on s'ennuie, tu vois, ou je sais pas.
Je sais dire en allemand... Au bout d'un quart d'heure, t'es viré, quoi.
Vous savez quoi, en allemand ?
Je sais dire le mot pour feindre la surprise à une partie, une soirée. C'est ça ? Voilà.
Bien.
Je sais aussi dire le mot pour l'état qu'il y a entre la mort et l'enterrement. Il existe. C'est vrai ?
Non, mais sans doute, j'ai pas tout lu pour tout dire. Mais après, pour revenir au feindre la surprise à une surprise partie, ça vient d'un sociologue qui a analysé ça, qui disait qu'en fait, quand on nous fait une surprise, Et ben, c'est vrai qu'on est surpris les trois premières secondes, mais la surprise, ça dure jamais autant que les gens le font vraiment quand. Voilà. Après on joue théâtrale. La surprise, voilà.
Parfait.
Sauf que nous, on n'a pas de mots pour le dire.
Voilà.
Pourquoi?
Bah parce qu'on cherche
pas. Pour dire
pas.
Quoi? Mais si, on a des mots.
Pour dire feindre la surprise à une surprise.
Mais si. Après, c'est des onomatopées.
C'est quoi?
Pour feindre la surprise?
Oui, mais voilà.
Ah.
Oui, mais c'est comment tu l'exprimerais? Je vais pas dire. Ah. Oh,
non, mais là tu le fais, mais il y a pas un mot pour ce que tu fais en langue française.
Pour dire j'ai faim la
pour
surprise.
Dire, oui, ah, oui, absolument.
Je te rappelle que le titre c'est il y a un mot pour tout.
Non, mais j'étais en train de balancer des photos sur les réseaux sociaux. J'ai pas écouté le début.
Non, mais voilà, c'est pour ça que c'est rigolo, tu vois. C'est
trop drôle, on s'éclate. Merci Héloïse.
Non, je trouve ça génial, moi. Vraiment.
Ok, allez, on va finir en beauté cette année. On a gardé la dernière chronique de l'année, de la toute dernière émission de 2016, pour un livre extraordinaire que va nous présenter Valérie.
Eh bien, un livre extraordinairement rare, parce que vous ne pourrez pas le trouver dans toutes les librairies.
Ah.
Je pense qu'il est...
Et il ne reste que 3 exemplaires à la librairie de la Lorgnette.
J'en ai un en moins. Que vous évoque la couverture?
Un loup.
Bon, Louise, tu n'as pas le droit de parler.
Bah, j'allais dire un loup, alors je vais dire un âne pour
c'est
changer.
C'est bien. Voici l'histoire de Peau d'âne.
Qu'est-ce qu'elle est forte, cette Pauline.
Alors, à première vue, vous allez me dire, bouh, Peau d'âne, franchement, pour la dernière chronique de l'année, tout n'est pas foulé, hein, ouais. Franchement. Eh bien si, messieurs, dames, ceci est le livre de Peau d'âne raconté par Sophie Thiers. On en a déjà parlé lors de M'lire il y a 2 ans. Elle était venue, on avait interviewé à la Lorgnette, elle nous avait parlé de Barbe Bleue. Un collage. Eh bien là, elle a fait Peau d'âne.
Sophie Thiers, des éditions, qui a monté sa boîte à Chanac, hein, c'est ça? C'est la même ou pas du tout?
Non, c'est pas Vignoux. Là, c'est une autre maison d'édition. Sophie Thiers, qui est plasticienne.
Oui, qui est plasticienne. Ouais.
Voilà, et qui fait beaucoup d'ateliers pour les enfants en Lozère.
Là, c'est les éditions CMDE.
Pardon. D'accord.
Voilà, collection dans le ventre de la baleine. Donc là, on est toujours sur les collages, on est sur un livre hyper artistique. Assez dur à comprendre parce que c'est Peau d'âne, le roman de Peau d'âne, mais présenté façon poésie avec des termes issus de livres de recettes et des collages issus de livres de recettes. Donc c'est assez perché, hein, c'est le meilleur mot que j'ai trouvé pour le définir. Mais c'est tout à fait original, c'est un ovni comme on n'en a pas l'habitude de voir. Et c'est tout mignon, c'est tout doux à lire. Et même si on ne retrouve pas forcément rapidement l'histoire de Peau d'âne, c'est toujours agréable à lire.
Après, moi, vraiment, j'ai adoré ce qu'elle a fait du conte original de Peau d'âne, mais aussi elle s'inspire beaucoup. J'ai senti, moi, le film de Jacques Demy aussi dans la poésie, et c'est un maniement des mots et un maniement de l'histoire qui est vraiment propre à elle, et je trouve que c'est très personnel, mais en même temps c'est un conte universel, donc on s'y retrouve, et c'est très chantant, je trouve, à lire à voix haute, il faut essayer, je trouve ça vraiment agréable à l'oreille. Et il faut savoir que Peau d'âne, du coup, ça s'écrit là, le titre c'est P-O-T, Peau d'âne, donc il y a un maniement des mots incroyable.
C'est Sophie qui a écrit les textes aussi, les poésies.
Oui, elle a tout fait.
Elle
ouais.
fait tout. Mais justement, je suis tombé sur la poésie qui s'intitule Peau d'âne. Alors, il y a à peu près 4 poésies par double page, avec bien sûr des dessins de l'infographie, des peintures, des collages qui sont ajoutés. Peau d'âne. Alors, il y a un sous-titre, devra satisfaire 2 types de besoins. Rouge sur chaque pulpe, le teint frais. Pochée dans sa peau prune, elle mâche la joue du monde. Elle mâche la joule du monde. De sa croûte élastique, ses parois l'une et l'autre, ses extrémités brutes épaississent son corps. Peau d'âne, boule d'or dans une peau hermétique.
Et voilà. Mais du coup, c'est des poésies sous forme de recettes aussi. C'est un peu un manuel pratique pour faire son peau d'âne. Et moi, je trouve ça très joli. Tu le lis très bien, Ludo.
Je reçois un message d'un auditeur qui me demande est-ce qu'il y a un mot allemand pour décrire ce genre de livre. Pour définir, pardon.
Alors,
c'est ça, Héloïse ?
C'est ça,
Ludo. Mais je savais pas que tu étais bilingue.
Ouais,
c'est impressionnant quand même.
Je veux pas dire, mais j'ai acheté le livre en cachette.
Sur le prêter.
Un mot pour tout. Ouais.
Super.
Donc voilà, Podane, ouais. C'est un très beau livre. Après, c'est pas pour les enfants, hein, pas ah non, du tout. C'est vraiment pour les adultes.
Après, moi, j'ai trouvé dur à lire quand je te l'ai pris le premier soir. J'ai commencé par celui-là. Je l'ai trouvé dur, mais parce que je l'ai ouvert comme d'habitude, sans regarder, oui, sans chercher à comprendre ce que j'allais lire. Et j'ai dit, oulala, mais qu'est-ce qu'elle m'a donné? Je comprends
pas. Il faut être assez disponible et dans un état d'esprit. Voilà, enfin, c'est vrai que si t'es stressé ou si t'as pas envie de lire quelque chose de facile, il faut pas le prendre. Mais je me dis, au coin de la cheminée, avec un thé, et surtout quand on aime bien cette histoire de Podane, et on retrouve plein
un thérum.
Un thérum de préférence. on retrouve plein de choses.
Il faut le lire.
Touchantes.
Il faut l'entendre dans sa tête, il faut le lire. Enfin, on ne peut pas faire les choses qu'à moitié. On ne peut pas ne pas y avoir le texte. Sans le texte, on ne voit pas les jeux de mots. On ne voit pas « je te dénude de ton or » et « ton », T-H-O-N, par exemple.
Oui, c'est culinaire en même temps.
Enfin, ça fait un peu prouesse littéraire. Là, ça fait un peu Oulipo, tout ça, ces trucs-là, dans l'écrit où tout est... Tu lis le texte, tu l'entends et tu le lis en même temps et c'est important.
Ouais. Et c'est rare.
Donc oui, un bel ouvrage.
Ok, merci. Voilà, vous avez donné quelques idées de.
Et dites-nous, cette année, livre. Vous avez préféré quoi comme
Ah, ça y est. Moi, j'ai préféré Le Garçon que tu m'as prêté, que j'ai lu, qui a été prix Fémina. Qu'est-ce qu'il y a, Valérie? Tu insinues que c'est pas moi qui l'ai lu, que c'est toi?
C'est ça.
Non, c'est Valérie qui est... Alors Valérie, tiens, je te laisse la parole. Qu'est-ce que t'as préféré?
Ouais, ça serait... C'est pas objectif si j'ai Le Garçon de Marcus Malte, mais si. Enfin, vraiment, ça a été... Non, il y en a eu beaucoup, mais c'est vrai que le Garçon... Et Corps désirable aussi, d'Adad, que j'ai vraiment, vraiment aimé. Et là, sur la... C'est quand on a fait la littérature japonaise, le coffret là, du Poids des secrets. Voilà, donc il y en a trois, j'arrive pas à trancher. Mais peut-être Le Garçon d'Adad, qui est un très beau livre aussi à offrir à Noël.
Bah, moi, j'ai aucune mémoire, alors je remonte à la semaine dernière, donc je vais dire que celui que j'ai préféré, j'ai beaucoup aimé celui d'aujourd'hui. mais voilà.
Pauline est à la race. Ok, merci Pauline.
Là, c'est même plus de la mémoire.
Il faut mon petit livre avec tout et mon petit cahier avec tous mes livres de noter, sinon je suis incapable de me rappeler ce que j'ai lu.
T'avais été très touchée par un où il y avait eu, je me rappelle, des homicides sur un génocide.
Ah ouais, là, sur le Rwanda là.
Sur le Rwanda.
Ah,
c'était l'an dernier ça.
Dur, non, c'était dernier. C'est sur la rentrée littéraire.
Il y a la photo, le livre de photographie aussi
des vétérinaires
de l'hôpital psychiatrique laissé à l'abandon en Italie.
Les lettres. Ouais. Ah oui, ça aussi. Ouais, non, j'ai eu pas mal de coups de cœur dans les. Je crois que j'ai eu peu de livres qui m'ont pas plu.
Si le chrono tend, le livre de science-fiction.
Ah oui, j'en ai même pas parlé, on en a trop perdu quoi, dans ce livre-là.
Et toi, Ludo?
Moi, c'est le livre de Jean-Marc R., cet auteur montpelliérain sur Sherlock Holmes, qui était excellent, que j'attends qu'on me rende. Je l'ai prêté à un ami, mais un mec pas très sûr.
C'est ça.
J'attends toujours.
Non, mais je crois qu'il est en train de le terminer.
Oui, c'est bien.
Il ne marque pas Jérémy.
On dit ça, tu sais, on attend que celui qui te l'a prêté l'oublie. Ça se passe toujours comme ça.
Il a marqué son nom sur le quatrième de couverture.
Nom, prénom.
Et toi, Héloïse?
Moi, je pense que Le Cœur du Pélican, mais j'en parle depuis longtemps, mais je ne sais pas si c'était vraiment cette année ou pas. C'était peut-être l'année dernière. Ou sinon, Le Rouge Vif de la Rhubarbe d'Olaf Sdottir, qui est un livre qui m'a vraiment touchée. Et bien sûr, Sous-Foot, les années 70.
C'est ça. Même s'il n'y a pas Joël Batz.
Oui, mais si, mais il y a en photo dedans.
En 2017, je ne parlerai plus de Joël Batz, ça c'est ma résolution.
Oh non.
J'en prends qu'une par an et ça sera celle-là.
Ok,
mais
très bien.
Je ne les tiens pas souvent.
On reprend quand? On n'a pas de date.
Alors on reprend en janvier quand on peut tous venir.
Voilà.
Petite pensée pour Nico qui n'était pas là. Donc,
qui est Nico?
C'est qui Nico?
Je sais pas.
Nico Lorraine?
Non, moi j'y pense toujours. Nico.
Ah, mais il y avait quelqu'un de plus que nous quatre habituellement? Je sais pas, j'ai oublié.
Il y a eu Audrey, ta stagiaire.
Elga. Nico Elga, il s'appelle. C'est ça.
D'accord. Moi j'ai pris un énorme gâteau pour rien.
Mais si, on va aller le manger.
On parlera de la rentrée d'hiver?
Allez, on parlera de la rentrée d'hiver.
Je suis en train de lire un livre génial. Ah. Je vais le teaser un petit peu. Ça s'appelle L'été des charognes.
Tu vas avoir des gens qui vont venir cet après-midi qui vont dire « Je veux l'été des Charognes ».
Il sort en janvier.
Ah, dommage pour les petits familles.
En même temps que le futur Haddad aussi qui va sortir
oui,
en janvier.
Oui, et il y aura un nouveau Daniel Pennac aussi en janvier, un Malocène.
On va se régaler à la rentrée de janvier.
Wow, génial. Il n'y aura pas de Dan Fant par contre.
Et un autre Pearl Harbor aussi.
Et un autre Pearl Harbor qui arrivera.
Oui. Pearl Harbor 2, la suite.
Allez, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux.
Joyeux Noël. Bisous, bisous.
Allez, ciao. Et comme dirait notre ami...
Au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.